7. Beau soleil est somptueux. Elizabeth Wharton, elle, ne l'est pas. Elle est en fauteuil roulant, pliée en deux comme le penseur de Rodin, se dit Hodges. Le soleil perce à travers la fenêtre, changeant ses cheveux en un nuage d'argent si fin qu'on dirait un halo. De l'autre côté de la fenêtre, sur une pelouse ondoyante et impeccablement entretenue, des vieux font une partie de croquet au ralenti. Le temps où Mrs. Wharton jouait au croquet est révolu, tout comme le temps où elle pouvait se tenir debout. La dernière fois que Hodges l'avait vue, Pete Huntley avec lui et Olivia Trelawney assise à côté d'elle, elle était voûtée. Maintenant, elle est cassée. Janet, pétillante dans son pantalon blanc fuselé et sa marinière, s'agenouille à côté d'elle, caressant une main salement tordue.
« Comment ça va aujourd'hui, chère maman ?» demande-t-elle. « Tu as l'air d'aller mieux ?»
Si c'est vrai, Hodges est horrifié. Mrs. Wharton regarde sa fille de ses yeux bleus délavés, qui n'expriment rien, pas même la perplexité. Le cœur de Hodges sombre. Il a apprécié de faire la route avec Janet, la regarder, apprendre à la connaître surtout. Et tant mieux. Ça veut dire qu'il n'a pas totalement perdu son temps. Puis un petit miracle se produit. Les yeux teintés par la cataracte de la vieille dame s'éclairent. Sa bouche craquelée et dépourvue de rouge à lèvres dessine un sourire.
« Bonjour, Janet. »
C'est à peine si elle peut lever la tête, mais ses yeux clignent en direction de Hodges. Ils sont maintenant glaçants.
« Craig. »
Grâce à la conversation qu'ils ont eue sur le trajet, Hodges sait qui est Craig.
« Ce n'est pas Craig, maman. C'est un ami. » Il s'appelle Bill Hodges. Tu l'as déjà rencontré ?
Non, je ne pense pas.
Elle s'interrompt, fronçant les sourcils, puis reprend.
Vous êtes l'inspecteur de police ?
Oui, madame. À quoi bon lui dire qu'il est retraité ? Mieux vaut rester le plus clair possible tant qu'il y a encore quelques neurones en état de marche là-dedans. Elle se rembrunit encore davantage, creusant des rivières de rides dans son visage.
Vous pensiez que Livy avait laissé sa clé sur le contact et que c'était sa faute si cet homme lui avait volé sa voiture. Elle vous a répété et répété que non, mais vous ne l'avez jamais cru.
Hodges imite Janet et s'agenouille près du fauteuil roulant. Madame Wharton, je pense maintenant que nous avons peut-être eu tort.
Bien sûr que vous aviez tort.
Elle reporte son regard vers sa dernière fille, levant les yeux vers elle sous l'arête osseuse de ses sourcils. C'est la seule façon dont elle peut regarder.
Où est Craig ?
On a divorcé l'année dernière, maman.
Elle réfléchit puis dit :
Bon débarras.
À qui le dis-tu ? Est-ce que Bill peut te poser quelques questions ?
Bien sûr, voyons. Mais je veux du jus d'orange et mes cachets.
« Je vais voir avec les infirmières si c'est l'heure, » dit Janet. « Bill, je vous laisse avec ?»
Il acquiesce et lui indique qu'elle peut partir d'un petit signe de deux doigts de la main. Aussitôt qu'elle a quitté la pièce, Hodges se lève, contourne le fauteuil pour les visiteurs et s'assoit sur le lit d'Elizabeth Wharton, les mains jointes entre ses genoux. Il a apporté son carnet, mais il craint de la distraire s'il se met à prendre des notes. Tous deux se regardent en silence. Hodges est fasciné par le halo argenté qui flotte autour de la tête de la vieille dame. On voit bien qu'une des aides-soignantes lui a peigné les cheveux ce matin, mais depuis, ils ont retrouvé leur état naturel et sauvage. Hodges en est content. La scoliose lui a déformé le corps en une chose horrible, mais ses cheveux sont toujours beaux, fous et beaux. « Je pense, dit-il, que nous nous sommes très mal comportés avec votre fille, Madame Wharton. » C'est clair. Même si Mrs. T était involontairement complice, et même si Hodges n'a pas totalement abandonné l'idée qu'elle ait laissé la clé sur le contact, il n'empêche que lui et Pete avaient fait un boulot de merde. Il est facile, trop facile, de nier ou de mépriser quelqu'un que l'on a décidé de ne pas aimer. Nous avons été aveuglés par certaines idées préconçues, et je tiens à m'en excuser.
Vous parlez de Janet ? Janet et Craig ? Il l'a frappée, vous savez. Elle a essayé de lui faire arrêter la drogue et il l'a frappée. Elle dit que ce n'est arrivé qu'une seule fois, mais je ne la crois pas. »
Elle lève une main très lentement et tapote le bout de son nez avec un doigt pâle.
« Une mère sait. »
« Non, je ne parle pas de Janet, mais d'Olivia. »
« C'est à cause de lui qu'elle a arrêté de prendre ses cachets. Elle disait que c'était parce qu'elle ne voulait pas finir droguée comme Craig, mais ce n'était pas pareil. Elle avait besoin de ses cachets. »
« Ses antidépresseurs ?»«
Ses cachets qui lui permettaient de sortir de chez elle. »
Elle s'arrête, pensive.
« Elle en avait d'autres aussi, vous savez, des cachets qui l'empêchaient de tout tripoter tout le temps. » C'était quelqu'un de bizarre, ma Livy, mais quelqu'un de bien. Malgré tout, c'était quelqu'un de très bien.
Mrs. Wharton se met à pleurer. Il y a une boîte de Kleenex sur la table de nuit. Hodges en sort quelques-uns et les lui tend. Mais quand il voit à quel point il est difficile pour elle de fermer la main, il lui essuie les yeux lui-même.
Merci, monsieur. Vous vous appelez Hodges ?
Hodges, madame.
Vous étiez le plus gentil des deux. L'autre était très méchant avec Livy. Elle disait qu'il se moquait d'elle, qu'il se moquait tout le temps d'elle. Elle disait qu'elle pouvait le voir dans ses yeux.
Était-ce vrai? Si oui, il a honte de Pete. Et honte de lui-même pour n'avoir rien remarqué. Qui lui a suggéré d'arrêter de prendre ses cachets? Vous vous en souvenez? Janet revient avec le jus d'orange et un petit gobelet en carton qui contient probablement les antidouleurs de sa mère. Hodges la voit arriver du coin de l'œil et du même geste de la main lui fait signe de ressortir. Il ne veut pas perdre l'attention de Mrs. Wharton et il ne veut pas non plus qu'elle prenne des cachets qui embrouilleront son cerveau déjà embrumé. Mrs. Wharton est silencieuse. Puis, juste au moment où Hodges craint de n'obtenir aucune réponse à sa question,
« Son correspondant ?»
Est-ce qu'elle l'a rencontré sous le parapluie bleu? Le parapluie bleu de débit?
Elle ne l'a jamais rencontré. Pas en personne.
Ce que je veux dire...
Le parapluie bleu n'était pas réel.
Sous ses sourcils blancs, ses yeux le traitent de parfait idiot.
C'était dans son ordinateur. Frankie était son correspondant Internet.
Il ressent toujours une espèce de décharge électrique dans le ventre quand de nouvelles informations tombent. Frankie. Sûrement pas le vrai nom du type, mais les noms ont un sens, et les pseudonymes encore plus. Frankie. Il lui a dit d'arrêter ses cachets?
Oui. Il disait qu'il la rendait dépendante. Oui, Janet, je veux mes médicaments.
Je suis sûr qu'elle sera là d'une minute à l'autre. Mrs. Wharton rumine au fond de son fauteuil un instant.
Frankie disait qu'il prenait exactement les mêmes comprimés et que c'était pour ça qu'il avait fait ce qu'il avait fait. Il disait qu'après avoir arrêté, il avait commencé à se sentir mieux, qu'il savait que ce qu'il avait fait était mal, mais que ça le rendait triste car il ne pouvait pas faire marche arrière. C'est ce qu'il disait, et que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'ai dit à Livy qu'elle devait cesser de lui parler. Je lui ai dit qu'il était mauvais, qu'il était toxique, et elle disait...
Les larmes reviennent.
Elle disait qu'elle devait le sauver.
Cette fois, quand Janet paraît dans l'embrasure de la porte, il hoche la tête. Janet met deux comprimés bleus dans la bouche plissée et suppliante de sa mère, puis lui fait boire une gorgée de jus d'orange.
Merci, Livy.
Hodges voit Janet grimacer, puis sourire. De rien, chère maman. Elle se tourne vers Hodges. Je pense qu'on devrait y aller, Bill. Elle est très fatiguée. Hodges voit ça, mais il rechigne quand même à partir. On le sent quand l'interrogatoire n'est pas totalement terminé, quand il reste encore au moins une pomme à faire tomber de l'arbre. Madame Wharton, est-ce qu'Olivia vous a dit autre chose à propos de Frankie? Parce que vous avez raison. Il est mauvais. Et j'aimerais le retrouver pour qu'il ne fasse plus de mal à personne.
Livy n'aurait jamais laissé sa clé sur le contact. Jamais.
Elizabeth Wharton est recroquevillée dans son rayon de soleil, parenthèse humaine en robe de chambre de lainage bleu, n'ayant pas conscience d'être coiffée d'une gaze de lumière argentée.
À nouveau, elle lève un doigt, comme un avertissement. Elle dit
« Notre chien n'a jamais plus vomi sur le tapis. Seulement cette fois-là. »
Janet prend la main de Hodges et articule un « On y va !» Les habitudes ont la vie dure. Et pendant que Janet se baisse pour embrasser sa mère, d'abord sur la joue puis au coin de sa bouche sèche, Hodges récite sa vieille formule de politesse. « Merci de nous avoir accordé de votre temps, Madame Wharton. Vous avez été très coopérative. » Alors qu'il marche vers la porte, Mrs. Wharton énonce clairement.
« Mais elle ne se serait jamais suicidée sans les fantômes. »
Hodges se retourne. À côté de lui, Janet Patterson est bouche bée. « Quel fantôme, Madame Wharton ?»«
Le bébé, surtout, »
dit-elle.
La pauvre petite chose qui a été tuée avec tous ces gens. Livy l'entendait pleurer la nuit. Pleurer, pleurer. Elle disait que ce bébé s'appelait Patricia.
Chez elle? Olivia l'entendait chez elle? Elizabeth Wharton parvient à effectuer le plus infime des hochements de tête. Une simple descente du menton.
Et la mère aussi, parfois. Elle disait que la mère l'accusait.
Elle les regarde, tassée dans son fauteuil.
Cette femme criait « Pourquoi vous l'avez laissé assassiner mon bébé ? C'est pour ça que Livy s'est tuée. »